Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, 170 enfants sans toit recensés par le collectif Élèves Protégés de Rennes. Deux interviews, d'abord pour présenter l'ouvrage Terre d'Isabelle Duval. Puis Corentin annoncera la fête à Gentrif avec l'équipe des Ombres Électriques. Il y aura de la musique, la chronique de la CIMADE et puis une recommandation. Deux rencontres autour d'un thé. Bienvenue dans la Reine. Allez, on commence comme chaque jour avec une info que j'ai retenue pour vous. Ce mercredi 18 octobre, il y a d'abord deux manifestations prévues en Bretagne à l'initiative de la Confédération Paysanne, de la Fédération Régionale des Centres d'Initiative pour la Valorisation de l'Agriculture et du Milieu Rural, les CIVAM, également portées par la Fédération des Races Locales et puis l'Association Eau et Rivières de Bretagne, tous mobilisés pour réclamer le budget promis par l'État aux agriculteurs qui signent des MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. Je vous en ai déjà parlé, alors je m'arrête plutôt sur une autre mobilisation, celle du collectif Élèves Protégés Rennes, mobilisé hier mardi 17 octobre lors de la journée internationale du refus de la misère. Actuellement, 138 personnes, dont 48 enfants, dorment sur un campement dans le parc de Morpa. Des familles sont aussi hébergées dans des écoles et puis d'autres, invisibles, dorment dans leur voiture. En tout, ce sont 170 enfants qui ont été recensés sans toit par ce collectif, des enfants qui sont scolarisés dans 50 établissements du territoire rennais. Un rassemblement a donc eu lieu devant l'école Liberté pour interpeller l'État, ça c'était mardi. Et puis ce mercredi matin, un temps de rencontre était cette fois organisé pour les parents, la presse et les élus. L'occasion de rappeler leur combat à ce collectif Élèves Protégés Rennes, à savoir le droit inconditionnel à un logement stable pour que les enfants puissent suivre un cursus scolaire ordinaire. Pour les joindre, ça se passe par email à l'adresse collectif.parentsrennes@proton.me et puis le collectif dispose d'une page Facebook. Après cette info du jour, c'est le moment d'une première interview. Isabelle Duval, bonjour.
Bonjour ici.
Je vous présente, vous êtes alors dans la vie salariée agricole et puis l'autrice de cet ouvrage dont on va parler, Terre, relier nos forces pour la préserver. Le lancement de l'ouvrage qui est édité chez Cop Braise, c'est le week-end prochain, dimanche 22 octobre, dans le cadre de la fête de la châtaigne. Ça se passe au jardin des Mille Pas, ici à Rennes, tout l'après-midi, je crois, de 14h à 19h. Isabelle, est-ce que c'est vous qui êtes allée voir Cop Braise, une maison d'édition assez importante dans la région dont le siège est basé dans le Finistère? Est-ce que c'est vous qui êtes allée leur proposer cette idée, un photoreportage à vélo pour aller rencontrer les maraîchers bretons?
Alors oui et non, mais comme tout processus éditorial, ce n'est pas parce qu'on souhaite réaliser un livre que ça fonctionne toujours. Donc la démarche, elle a été avant tout de réaliser le produit, le photoreportage, et une fois en fait la maquette faite, une fois la tournée faite, d'aller en effet solliciter Cop Braise.
On précise que vous n'êtes pas seule sur le volet photographie, il y a trois personnes autour de vous?
Complètement. Donc c'est une équipe avec trois photographes bénévoles, même s'ils sont professionnels, c'est leur métier. Ils ont offert généreusement leurs compétences et leur art pour ce travail. Sur le secteur de Rennes en particulier, donc il y avait ledit photographe ambulant qui lui est rennais, qui travaille à vélo. Sur le pays. Et puis sur les autres départements, donc chacun se répartissait. Donc avec Elliot Smarito pour le 29 et Liggy Band sur le 22.
Vous avez 37 ans, si je ne dis pas de bêtises, êtes dans le secteur du maraîchage biologique, également diplômée en sciences sociales, pour donner quelques éléments sur vous. À quel moment, donc, dans votre vie de tous les jours en tant que salarié agricole, vous avez envie de vous extraire de ce quotidien pour écrire un livre ?
Oui, alors c'est un peu étonnant, c'est arrivé un peu comme, je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est ça, c'est arrivé l'été, à la fin de l'été dernier, à l'issue entre autres de la sécheresse, hein, qui a donné un petit coup de chaud, et puis je pense aussi un parcours, hein, puisque je suis en tout cas salariée, saisonnière depuis 2007, donc ça vient aussi rencontrer tout ça. Et puis avec aujourd'hui pas mal d'enjeux environnementaux, sociaux, économiques qui ont fait aussi le croisé. Donc quelques questions et j'ai souhaité en tout cas aller creuser et chercher des réponses.
Le titre de l'ouvrage « Terre », il nous permet d'évoquer tout de suite cette association que vient soutenir cet ouvrage, notamment à travers les droits d'auteur qui lui seront reversés. On dit un mot sur ce projet « Terre de liens » en Bretagne.
Oui, alors Terre de Liens, donc c'est à la base, donc c'est une association qui est née d'un mouvement citoyen. Ils ont fêté leur, ils fêtent. Nous sommes en 2023, ils fêtent leurs 20 ans cette année d'existence. Et Terre de Liens Bretagne, donc a été la première association née issue, de la structuration de ce mouvement, donc en 2006. Et l'antenne donc de Terre de Liens Bretagne se situe à Cesson-Sévigné. Donc proche en tout cas de Rennes. Et puis pourquoi Terre de Liens, ça faisait du sens simplement parce que leur objet d'action est le soutien et l'accompagnement des porteurs de projets sur l'aspect foncier, donc l'accès au foncier sur l'aspect juridique.
En quelques chiffres, pour vous compléter, Terre de Liens Bretagne, ce sont 8 groupes locaux de travail pour 200 paysans qui sont accompagnés chaque année dans ce processus d'installation et de transmission. Et puis aussi des collectivités locales, il y en a 20 qui sont aidés plutôt sur un volet aide juridique. Est-ce que c'est avec leur aide que vous avez choisi vos 22 maraîchers, maraîchères bretons à les rencontrer, donc, ou ça n'a pas fonctionné dans ce sens-là ?
Non, ça n'a pas fonctionné dans ce sens-là. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt ou moindre intérêt à faire ce que j'appelle de l'entre-soi. Pour moi, ce qui était plus important, c'était d'aller chercher des réponses aux questions que je me posais et surtout de pouvoir offrir une diversité de modèles. Parmi les fermes, il existe 2 modèles Terre de Liens dans le sens de l'accompagnement pour une construction de GFA, de groupement foncier agricole en termes d'installation, et un exemple sur l'aspect foncier, entre autres par Biotope situé à Vignoc, qui eux ont fait appel à leurs services pour accéder aux fonciers. Mais toutes les autres fermes ont vraiment leur chemin propre et individuel dans la diversité.
Le GAEC Biotope qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission d'Info Locale, qui fête ses 10 ans, est créé au départ par un groupe de copains, c'est ce qu'ils nous ont raconté au micro. Vous êtes donc parti sur votre vélo pendant 2 mois à l'automne 2022 à la rencontre de 22 maraîchers et maraîchères bretons et bretonnes. Ce qu'ils ont en commun, c'est de pratiquer l'agriculture biologique, d'être aussi sur des surfaces assez réduites, moins de 15 hectares. Au-delà de ça, plein de profils différents. Comment vous les avez retenus, ceux-ci? Et puis pas d'autres, qu'est-ce qu'ils avaient d'intéressant pour vous ?
Oui, ça a été dur hein, de faire le choix et c'était pas possible dans tous les cas de bénévolement d'aller rencontrer toutes les fermes de Bretagne. Donc il a fallu faire des choix. J'ai souhaité rencontrer des représentants de modèles. Je pense entre autres à une ferme spécialisée en plantes aromatiques médicinales par exemple, sur le secteur du Finistère. Je pense également à des professionnels qui travaillent davantage en domaine polyculture élevage, donc avec l'association du maraîchage et des animaux, aussi l'attraction animale, etc. C'est vraiment la diversité que j'ai recherchée.
Et donc diversité aussi dans les profils, il y a des hommes, il y a des femmes, certains installés depuis peu, voire en cours d'installation et jusqu'à 23 ans d'expérience. Pour aller les rencontrer, vous avez parcouru plus de 1000 km à vélo. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette histoire du moyen de transport ? Est-ce que ça change l'esprit du photoreportage ?
Oui, quelle idée, surtout que je déteste pédaler, et en particulier dans les côtes, donc oui, quelle idée. Initialement, je souhaitais faire ce projet au national, mais c'était très compliqué de constituer une équipe bénévole avec autant de temps à offrir. Donc ça s'est réduit à la région Bretagne et c'est très bien comme ça, en rencontrant donc Aurélien, le dit photographe ambulant, qui lui voilà, travaille à vélo. Et bien je me suis dit pourquoi pas utiliser ce moyen de transport, et surtout pourquoi pas aller pousser plus loin la réflexion sur la consommation, puisque nous sommes là vraiment sur un support de réflexion sur la consommation aussi, et pas que sur la pratique agricole. Ce n'est pas un livre technique, et donc je me suis dit, bien voilà, poussons plus loin la réflexion sur la consommation d'énergie aussi. Donc
ça doit aussi changer forcément le rythme auquel vous avez mené ce photo-reportage, avec le temps peut-être de cogiter pendant que vous pédaliez, non ?
C'était aussi l'idée, en effet, d'y aller plus lentement, de laisser les choses venir et s'apaiser, laisser partir. L'idée aussi de faire un effort dans la rencontre, voilà. Il y a un effort qui est fait, et de se rendre compte finalement, ouais.
Des distances aussi.
Des distances et de l'environnement dans lequel ces fermes se situent.
Au fil des 192 pages de ce livre, dont je peux redonner le titre, Terre, relier nos forces pour la préserver, on part avec vous dans des fermes de la région de Rennes à celle de Brest, avec pas mal d'arrêts à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Il y a aussi deux stops dans le Morbihan pour des rencontres donc sous forme d'entretien pour parler préservation de la terre. Un volet qui est défendu avant tout à travers une agriculture biologique, c'est ce qui relie l'ensemble de ces maraîchers et maraîchères bretons, mais pas que, ça permet d'aborder plein d'autres choses au-delà de l'agriculture biologique.
Oui, alors le livre reste ouvert, hein, dans le sens où je retrace surtout des entretiens assez bruts. Je n'ai pas de formation journalistique, donc il s'agit vraiment d'une rencontre qui parfois durait une demi-journée, une journée, parfois je repartais le lendemain. Donc on s'est vraiment laissé le temps de s'interroger ensemble à où est-ce qu'on en est finalement, nous, dans notre agriculture. Et donc les questions portaient davantage sur l'aspect social. C'est vraiment une approche systémique pour pouvoir offrir au travers de textes et des photos aussi, mais finalement des possibilités de se questionner sur la fonction même de l'agriculture. Y a-t-il qu'une fonction, celle de produire, ou y a-t-il d'autres fonctions ?
On y parle méthode de travail, par exemple du maraîchage sur sol vivant. On y parle de ce qu'il y a autour de la ferme, qu'il soit question de faune ou de flore, de ceux qui font le choix de la mécanisation ou non dans leur travail. J'ai envie de m'arrêter sur le cas de Grégory du Marais Sage du côté de Bru, on n'est pas très loin de Rennes. 20 hectares, dont 15 de culture sur une variété de 15 légumes différents, 9 temps plein mobilisés, un restaurant à la ferme, et avec tout ça, une fatigue profonde dont il vous parle et qui est peut-être souvent revenu dans ce métier de paysan.
Oui et non, parce que je ne souhaitais pas collecter uniquement cet aspect. C'est un aspect, en fait, de la réalité du métier. C'est un métier physique qui parfois nécessite aussi du mental. Et donc, oui, il y a forcément de la fatigue. En tout cas, il fait part, de son ressenti au moment de notre rencontre. Je ne sais pas aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, comment il se sent, mais ça pourrait être intéressant, justement, voilà, de prendre du recul aussi et de voir l'évolution. Ça interroge forcément et j'ai envie de laisser les réponses aux lecteurs et aux lectrices. Comment expliquer cette fatigue et comment est-ce qu'on pourrait peut-être soutenir davantage ceux qui nous nourrissent.
Comme vous êtes salariée agricole dans la vie, Isabelle Duval, ça vous amène à évoquer ce que ferait peut-être pas forcément un journaliste professionnel, des points assez techniques, des dispositifs notamment d'accompagnement, peut-être aussi d'acquérir plus facilement la confiance de l'interlocuteur, parce que vous savez de quoi vous parlez. Les paysans, paysannes ont parfois la réputation d'être un peu taiseux. Vous avez plus facilement pu aller au-delà de ça ?
Bah oui, c'était un atout, clairement, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Souvent, au travers d'articles qui m'est arrivé de lire sur le métier, je trouvais que ce n'était pas suffisamment représentatif à mes yeux, et j'avais vraiment envie de partager ce que moi j'y ressens, j'y vois, ce que j'y vis. C'est un partage. Et d'y être de l'intérieur, eh bien oui. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne, alors je dirais pas moi, mais en tout cas qui est quelqu'un de l'intérieur pour réaliser un travail sur ce métier.
le lancement de cet ouvrage, Terre, que vous avez donc écrit, eh bien, c'est ce week-end, à l'occasion de la fête de la Châtaigne. Rendez-vous pour ce moment au Jardin des Mille Pas. Ça se passe dimanche 22 octobre de 14h à 19h. On est dans le quartier de la Prévalet, ici à Rennes, avec plusieurs animations qui seront proposées. Peut-être commencer par dire que le Jardin des Mille Pas fait partie des structures que vous avez rencontrées, avec un modèle assez particulier, très collectif, beaucoup dans la transmission aussi.
Oui, Maxime m'a fait honneur voilà, d'accepter un temps d'interview. Et pour moi, c'était un privilège d'aller découvrir voilà, ce lieu que je trouve assez magique et ouvert sur, voilà, sur le secteur de Rennes. C'est un poumon vert. C'est à la fois un lieu de formation, c'est un lieu ouvert au public, c'est un lieu agriculturel, puisqu'il s'y passe plein d'événements. Le mois dernier, il y avait encore voilà, du champ à l'assiette, une petite fête annuelle. Donc c'est vivant et ils ont une pratique assez identifiée sur l'agroécologie qui, de mon point de vue, demande en tout cas à être reconnue.
Et on peut découvrir donc le témoignage de Maxime, le coordinateur formateur du Jardin des Mille Pas, dans votre livre, Isabelle, en quelques chiffres. Ce Jardin des Mille Pas, donc c'est un lieu en activité depuis 2014 avec aujourd'hui 8 salariés et environ 20 bénévoles sur une surface d'1,3 hectare, dont 3000 mètres carrés en culture. On vous retrouve donc ce week-end au Jardin des Mille Pas pour lancer cet ouvrage. J'ai parlé d'animation, donc ça commencera à partir de 14h. On a déjà évoqué précédemment cette projection du béton dans nos courgettes, c'est un film qui est projeté dans le cadre du festival alimentaire et vous serez là avec Terre de Liens pour débattre suite à ce film, pour aussi présenter votre ouvrage.
La notion de débat est un peu fort. Je pense que s'il s'agira plus d'échanges, hein, puisque le temps nous sera court et que je préfère me rendre disponible vraiment. C'est un jour qui va être assez particulier. Il y a le lancement de cet ouvrage, Terre reliée nos forces pour la préserver. Pour moi, c'est important, en tout cas, de me rendre le plus disponible possible, voilà, aux gens qui souhaiteraient davantage d'informations sur tout le processus ou sur, voilà, sur n'importe quel sujet qui entoure ce travail.
On pourra aussi acheter votre livre avec la librairie rennaise L'Établi des mots qui sera présente sur place. Ah oui, peut-être de vous demander, après cet ouvrage, là on est au moment du lancement qui va forcément être important et intense pour vous, c'est quoi la suite? Vous êtes donc toujours salarié agricole, mais vous pensez à reprendre les études, c'est ça?
Oui, en effet, en tout cas d'être vraiment sur un travail d'investigation et de rencontre, ça m'a plongé dans un univers et que j'ai vraiment envie de poursuivre, d'approfondir. C'est aussi pour moi, ça arrive en tout cas à quelques années de parcours de terrain dans le maraîchage, donc il y a aussi pour moi la question à un moment donné de peut-être de changer de métier, en tout cas de me préserver physiquement et donc oui, la reprise d'études, possiblement sociologie, pourrait arriver très prochainement. Ce que je pourrais ajouter, c'est dans l'importance de l'ouvrage, c'est que voilà, tous les droits d'auteur seront pour Terre de Liens, pour venir soutenir leurs actions et soutenir la future génération, puisque nous avons une problématique sur le renouvellement des générations dans les métiers de la terre. Donc tous les acteurs de cet ouvrage se sont portés bénévoles et volontaires pour cette cause.
Je vous remercie Isabelle Duval, je vous représente quand même, vous êtes salariée agricole et puis l'autrice de cet ouvrage « Terre, relier nos forces pour la préserver ». Il y est question du quotidien des paysans, de leur terre, de leur méthode de travail, mais aussi des équipes qui font vivre ces lieux. Un livre qui contient aussi, on ne l'a pas dit, des entretiens pour aller un petit peu plus loin, notamment avec des chercheurs. Le tarif de l'ouvrage, 25€, et on le trouve dans toutes les librairies. Pour plus d'infos, il y a le site cop-braise.fr. Le lancement de l'ouvrage, c'est dimanche 22 octobre dans le cadre de la fête de la Châtaigne. Rendez-vous au Jardin des Mille Pas à Rennes de 14h à 19h pour tout un tas d'animations et notamment, puisque c'est la fête de la Châtaigne, il y aura des grillades de châtaignes. Pour plus d'infos, il y a le site internet jardindesmillepas.org. Merci beaucoup.
Merci.
elle sole. Le soleil sort, c'est pas le cas aujourd'hui, mais il faut savoir se réjouir de la pluie et de l'humidité. Alors c'était un morceau, pour revenir à la musique, morceau de Pachyman, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à Canal B. Un morceau retrouvé sur l'album Switched On, qui est sorti le 29 septembre chez Atto. C'est le quatrième disque de ce multi-instrumentiste portoricain, dont le vrai nom est Pachy Garcia, et qui avec ce 10 titres rend hommage à la première génération de musiciens à avoir utilisé des synthétiseurs entre dub, son traditionnel portoricain, et puis électro. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, c'est l'émission d'information locale sur Canal B, à écouter sur le 94.0, mais aussi sur notre site internet canalb.fr. On continue cette émission avec une seconde interview menée par Corentin Petitclerc, notre volontaire en service civique.
Ce week-end, c'est la fête à Gentrif. On est avec Gwendal des Ombres Électriques et organisateur de l'événement qui vient pour nous présenter ce qui va se passer du 19 au 22 octobre.
Merci de m'accueillir.
La fête à Gentrif, c'est un événement pour échanger autour des enjeux du droit au logement et de la gentrification. Et ça va se passer aux Ombres Électriques. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel est ce lieu pour les personnes qui ne connaissent pas ?
Alors, les Ombres Électriques, c'est un endroit un peu mystérieux. Il faut passer une porte cochère rue des 30 et on arrive dans une sorte de garage, atelier qui peut faire office de cinéma, de salle de réunion, de lieu de travail et aussi de lieu de spectacle. Alors, pour résumer rapidement, en fait, c'est un lieu qui est très très ancien dans l'histoire de Rennes. Beaucoup de gens le connaissent. Avant, ça c'était les ateliers d'Aran, qui avait un lieu qui avait quasiment 20 ans, qui avait été monté par des gens du monde du cinéma et notamment de Comptoir du Doc. Alors, les ateliers d'Aran se sont terminés et ils ont proposé de passer la main à d'autres personnes, dont un collectif assez hétéroclite de gens qui venaient du monde de la musique, du cinéma, du spectacle ou autre. Et en fait, ça fait 3-4 ans que ça existe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est une trentaine à payer un loyer et à se servir de ce lieu-là comme un lieu de programmation culturelle alternative sur la base associative. Voilà, c'est pour venir, il faut adhérer et pour venir voir des films, des spectacles ou aussi proposer des réunions. Alors, ça a pas mal évolué au cours de ces 3 dernières années. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, on cherche des adhérents, enfin des membres locataires des Ombres pour venir prendre possession de ce lieu et continuer à le faire vivre.
Et c'est quoi du coup le genre d'événement qui s'organise le plus souvent ? Est-ce que tu as des exemples d'événements qui sont passés il n'y a pas longtemps ou alors des moments un peu phares qu'il y a eu dans ce lieu ?
Ouais, il y a eu, je dirais, deux moments phares. C'est le cycle autour de sport et cinéma, donc des projections autour du sport et avec des thématiques comme le sport en Algérie ou des thématiques plus originales sur le PMU. Il y a aussi des projections argentiques, qui avaient beaucoup de gens de Zéro de Conduite ou du Laboca qui font partie des Ombres Électriques, donc des collectifs rennais de cinéma argentique. Et d'ailleurs, les Ombres Électriques, ça veut dire cinéma en chinois, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des spectacles, du stand-up. Ça dépend aussi en fonction de ce que nous, on propose en tant que locataire du lieu.
Du coup, si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler de la fête à Gentrif qui va se passer de jeudi à dimanche 23 octobre. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, la fête à Gentrif, on a un peu rigolé autour d'un personnage fictif qui s'appelle Gentrif, le gentrificateur, qui est une sorte de personnage imaginaire qui arrive en Bretagne et qui rachète plein de maisons sur la côte pour faire des Airbnb ou qui vient du coin, on sait pas trop qui est-il, on ne sait pas, mais en tout cas on sait qu'il a beaucoup d'argent et qu'il pose problème parce qu'après nous on a du mal à se loger. En fait c'est un événement pour parler du droit au logement et de la question du logement en général en Bretagne, notamment Rennes qui est notre ville, notre territoire, donc que ce soit entre Maurepas, l'aménagement des prairies Saint-Martin, les bars du centre-ville. Il y a toutes ces thématiques-là qui vont être abordées via une programmation assez riche. Il va y avoir des projections, des spectacles, des expositions. Et à partir de ça, on va discuter, on va en parler, on va jauger où en est la situation. Et on va aussi un peu parler de Brest, parce qu'on veut aussi parler d'autres territoires de la Bretagne. Et c'est un cycle qu'on veut engager. On aimerait bien parler parler aussi, peut-être pas à l'avenir, dans d'autres événements de ce type, de Douarnenez, du problème des résidences secondaires, des Airbnb, de la touristification. Voilà, on a, en fait, on se convie en ce moment en Bretagne, c'est vraiment très 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 compliqué. Le problème du droit au logement, personne ne peut y échapper. Et nous, ce qu'on voulait proposer dans ce lieu-là, qui est quand même assez politisé, c'est une réflexion générale autour de cette thématique-là.
Alors gentrif, tu l'as un peu dit, du coup c'est un jeu de mots qui désigne la gentrification. C'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent en ce moment, mais qui n'est pas forcément évident à comprendre.
Bah, c'est un terme qui vient d'un phénomène très très précis, hein, qui est né, ça vient de Chicago. En fait, c'est au moment où à Chicago, le centre-ville avait été délaissé par les classes bourgeoises, parce que voilà, dans le modèle de développement des villes américaines, les gens allaient plus habiter dans les banlieues, et à un moment, il y a eu une reprise en main, entre guillemets, par l'argent et de manière... coercitif du centre-ville. On a viré les populations, notamment afro-américaines, pauvres, pour remettre les bourgeois dans le centre-ville. Alors la gentrification, ça prend des formes très très différentes en fonction du territoire. Je pense que nous, ce qu'on connaît à Rennes, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est quelque chose d'assez... voilà, c'est une ville qui se développe et comme beaucoup de grandes métropoles, elle cherche à attirer des populations avec des revenus hauts, parce que voilà, dans une logique de développement économique, c'est perçu comme étant quelque chose de très bien. Et sauf qu'en fait, ben voilà, Rennes, il y a peu de logements, ça a beau construire, et il y a toute une partie de la population qui se retrouve dans une grande complexité pour se loger. À Rennes, les étudiants, là, c'est quand même très, très compliqué. Hein. Et les élus, ils ont beau essayer de dire, ouais, on fait de notre mieux, mais ils se retrouvent face à un double phénomène un peu contradictoire, c'est développer la ville, faire venir des gens qui ont de la thune, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans cette ville culturellement, que ce soit propre et tout ça, et en même temps, bah, toute une autre partie de la population dont ils ont besoin, parce que c'est eux aussi qui font le cœur de la ville et qui la font tourner, et bah, ils sont en mode, ah mais qu'est-ce qu'on en fait, et voilà, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se loger. Et même des villes comme Brest, qui sont réputées pour être des villes populaires, prolétaires, dans le centre-ville de Brest, on n'a pas l'impression d'être dans une ville bourgeoise, même plutôt d'être dans une ville ouvrière. Pourtant, même là-bas, les municipalités, elles sont sur une politique de faire un centre-ville plus propre, de faire venir des gens qui ont de l'argent pour développer des centres-villes vitrines. Sauf qu'évidemment, bah, ils disent qu'ils veulent que tout le monde soit en ville, ils veulent qu'il y ait des riches et des pauvres, sauf qu'en fait, en faisant venir... ben, beaucoup de gens qui ont de la thune en ville, et ben, immanquablement, il y a d'autres populations qui en pâtissent.
La gentrification, c'est un événement qui se passe progressivement. Il n'y a pas forcément de moment où tout d'un coup, oh là, ça y est, la ville, mon quartier a été gentrifié. C'est quelque chose de très progressif et qui ne se voit pas forcément. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'organiser cet événement maintenant ? Est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose qui vous a fait dire « Ok, là, genre, c'est le moment peut-être de parler et de s'organiser par rapport à ça ?»
Ouais. Je pense que le déclic, ça a été qu'on était tous bien engagés dans le mouvement social cet hiver-printemps. On a beaucoup discuté. On s'est rendu compte qu'on était les ombres électriques. C'est quand même au milieu d'un quartier qui a beaucoup changé, justement. C'est le quartier Arsenal-Redon. On s'est rendu compte qu'on restait une sorte de bulle un peu politisé, rebelle, au milieu d'un quartier un peu qui était en train de changer, et on s'est dit, ah ouais, c'est important que nous on vienne parler de ces questions-là, et aussi c'est des questions qui nous touchent tous à la fois personnellement et dans nos projets. Par exemple, jeudi, il va y avoir toute une série d'expositions, de films en argentique ou autres sur le quartier de Maurepas, parce qu'il y a une partie du collectif qui sont très très intégrés à Maurepas. Moi, j'ai pas mal bossé sur le Finistère. Il y a aussi un certain nombre de membres qui sont engagés sur la question du logement à Rennes, et en fait, c'était un peu un dénominateur commun, et on s'est rendu compte que tous ensemble dans le collectif on traitait de ces problématiques, et on s'est dit, ah bah voilà, ça c'est une thématique qui va nous rassembler et sur laquelle on va pouvoir se mettre ensemble, parce qu'en fait on a tous travaillé là-dessus.
Du coup, pour la programmation, jeudi, le week-end commence avec le projet des trois petites tours. C'est le résultat du travail de Laetitia Follinier, Candice Azouar et Lucie Rivaud-Allen, trois artistes en résidence à Maurepas depuis 2020. Est-ce que, du coup, c'est ce quartier qui sera à l'attention pour la journée de jeudi ?
Exactement, c'est vraiment ce quartier qui sera au centre des attentions. Ces trois artistes-là, dont certaines d'entre elles font partie des ombres, sont très implantées sur ce quartier-là et ont fait une résidence autour d'une tour qui allait être rénovée ou détruite, et pour réfléchir à la mémoire de ce quartier-là avec les habitants. Donc, il va y avoir toute une série de films et avec des gens du quartier qui vont venir dans le centre-ville pour en parler aussi.
Il y aura l'exposition Archives du présent de Candice Azouar, où elle va nous plonger dans l'histoire et dans le présent de Maurepas. Il y aura l'installation vidéo de Laetitia Foulinier qui s'appelle « Ouvre-moi ta porte ». Et ensuite, « La ville en nous », un film documentaire réalisé par Lucie Rivo-Allen.
Et voilà, on va faire, il y aura à manger, il y aura des discussions. L'idée, c'est vraiment... Nous, quand on monte des films, on les accompagne. C'est-à-dire que c'est pas juste regarder un film. L'important, c'est d'en parler, de discuter derrière.
Vendredi, on va parler de Brest avec la projection du film Chant de Brest, dont tu es le réalisateur et qui a été produit par les 48e Rugissants. Est-ce que tu as envie de parler un peu plus de ce film ?
Bah oui, je suis le mieux placé pour en parler. Je l'ai réalisé. En fait, c'est un film où je suis parti à la recherche de l'esprit de la ville de Brest. Alors, c'est toujours un peu compliqué de partir à la recherche de l'esprit d'une ville. Et mon angle, c'est celui de la musique underground. Et en fait, ce que je découvre et ce qui se montre dans ce film, c'est une ville qui reste profondément populaire, mais qui est en mutation. Et à travers la découverte de plusieurs personnages, donc des rappeurs, des personnes qui organisent des concerts dans une rue squattée, enfin Mireille, on découvre un peu plusieurs facettes du Brest qui, moi, m'est vraiment cher, c'est-à-dire le Brest populaire, et on voit aussi comment il change ou qu'il change et où il change pas.
C'est un film qui parle du coup des personnes qui habitent la ville de Brest et qui est quand même pas mal axé sur la musique, je crois.
Ah oui, c'est ça, c'est vraiment les personnages que je filme, c'est des rappeurs, c'est des gens qui font de la musique électronique, c'est des rockers, des anciens rockers ou des rockers d'aujourd'hui. On est vraiment dans le monde de la musique underground et ça c'est un angle qu'on voulait aussi mettre en avant parce que voilà, on le sait tous, c'est de plus en plus compliqué de faire du bruit en ville. Alors qu'en Bretagne, on aime faire du bruit en ville, enfin je veux dire Rennes, Brest, c'est des villes de musique, c'est des villes de concerts et c'est de plus en plus compliqué. Les lieux alternatifs, c'est les premiers endroits où on se produit et où la musique se produise et c'est pour ça qu'ils sont importants à défendre et pourtant ils se réduisent comme peau de chagrin autant à Rennes que à Brest. Voilà.
Et le samedi après-midi, on va parler des Prairies Saint-Martin, un lieu emblématique sur ces thématiques-là. Ça fait plusieurs années que petit à petit les personnes qui utilisaient ce lieu, qui y vivaient, ont été expropriées une par une. Et du coup, on aura une exposition de plusieurs fanzines sur le travail de Maud Pelletier et Lee Charuot, ainsi qu'une performance qui s'appelle Parcelles 104, 132, 133 et 157 de Pierre-Yves Racine. Pourquoi parler de ce lieu en particulier ?
Parce qu'il est, vraiment emblématique de l'évolution de la ville de Rennes. C'est-à-dire que quand on regarde les prairies, c'est l'histoire en creux de la ville. D'abord, il y a eu des usines, donc c'est l'histoire ouvrière. Puis après, il y a eu des jardins ouvriers. Puis après, ça a été une sorte de friche jaune, zone entre deux, au même moment où la ville elle essayait de se réinventer, et du coup, qui a été investie par tout un tas de gens, en accord ou pas avec la ville d'ailleurs, pour y habiter, pour y faire des choses. Et voilà, maintenant que la ville de Rennes s'enrichit, change, la ville a voulu reprendre en main cet endroit pour en faire un parc plus lisse, plus, peut-être plus pour tout le monde, mais ça s'est fait aussi sur le dos de tout un tas de gens qui y vivaient et il y a eu des luttes pour préserver cet endroit et en fait les projets de Pierre-Yves et de Lise et de Maud, elles parlent de ce moment-là où, de cette transition où il y avait des gens qui habitaient, qui avaient des cabanes, qui étaient en fait le point de chute pour tout un tas de gens extrêmement précaires ou aussi des lieux de création ou d'expression pour des gens qui avaient du mal à s'exprimer ailleurs. Et c'était un monde, en fait, les prairies, et comment ce monde, il a disparu pour en donner à un autre. Alors, on laissera le public rennais de juger quel monde il trouvait le plus souhaitable. Moi, évidemment, j'ai ma petite idée, mais je préfère pas être péremptoire. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est Maud et Lise, elles ont photographié ce moment de transition, et Pierre-Yves aussi. Pierre-Yves, c'est beaucoup des photos, des enregistrements d'habitants, et son installation, c'est des puzzles avec des photos des prairies qu'on reconstitue. Et en même temps, il sera là pour accompagner. Il y aura des petits films qu'il a fait, des portraits de gens qui habitent, et aussi des entretiens. Et Maud et Lise, c'est une série de fanzines, d'abord sur l'histoire des prairies. Puis le deuxième sur le rapport de la nature en ville. Et le troisième, c'est un portrait d'un habitant des prairies. Et il y a aussi un projet de Maud Pelletier où elle a été photographier les cabanes pour montrer qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la place. Un avant-après.
Samedi, la journée, elle se termine avec le spectacle Rennes-Ville-Rock par David Perrault et Thomas Lallemand. Est-ce que tu as déjà vu ce spectacle ?
Eh ben non, c'est pour ça que je suis super content de l'accueillir. C'est un spectacle qui a quelques années maintenant. David, c'est un personnage assez connu des Rennais hein, et des Rennaises. C'est quelqu'un qui est impliqué dans le théâtre, dans les cabarets drag, et qui travaille aussi au Bar de la Cité, donc un des bars emblématiques de Rennes. Et là, ce spectacle-là, bah, on est totalement dans la thématique de notre festival. C'est un monologue de patron de bar, et où ça parle du bruit. Qu'est-ce que c'est de faire du bruit en ville, et qu'est-ce que c'est de ne plus pouvoir faire de bruit en ville, et avec voilà son humour, sa poésie. Enfin, moi, je l'ai pas vu, j'ai juste vu des extraits, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça me fait vraiment plaisir d'inviter David.
Le dimanche, il est prévu du coup un temps de discussion et un repas. Qu'est-ce qui va se passer ?
Bah, ça, c'est vraiment le moment, un moment important. Voilà, on aura tous regardé ensemble des spectacles, on se sera nourris. Et là, l'idée, bah, c'est de se poser, de manger ensemble, de faire un pique-nique partageur dans le lieu et d'engager une discussion. Alors, il y aura plusieurs collectifs qui sont impliqués dans le droit au logement, que ce soit les collectifs qui accueillent les sans-papiers ou collectifs étudiants. Et voilà, c'est d'engager une discussion et d'imaginer la suite, voir quels autres événements on pourrait organiser. C'est pour essayer de donner une suite à tout ça. On verra ce que ça donne, c'est un pari. Voilà.
Il y aura quand même restauration et bar sur place, vous prenez pas le cash, et les ateliers sont tous à prix libre ou au chapeau.
Ouais, c'est ça, tout prix libre et chapeau, avec une adhésion à faire à l'entrée.
Et ben, on était avec Gwendal qui est venu nous présenter la fête à Gentrif, un événement pour échanger autour des enjeux de droit au logement, de gentrification et de manière d'habiter. Ça se passe aux Ombres Électriques au 10 rue des 30 à Rennes et c'est du jeudi 19 au dimanche 22 octobre. Plus d'infos sur expansif.info/lesongueselectriques veulent faire sa fête à Gentrif. Merci Gwendal.
Merci à toi.
Il danse, fenêtre de verre. Il boit. Fenêtre de plomb. Il crie jusqu'en hiver. Il sourit jusqu'au plafond. Dans cette petite rue derrière la pierre, y a une gamine qui se bat, restée sur terre, perchée dans son nid ou nichée près d'un frère. Le monde est bien trop là, mais qu'est-ce tu veux y faire? Même qu'on les voit danser, tranchant comme des couteaux. Là-bas sur un balcon, ici c'est une goutte d'eau qui déroule sur sa joue comme les roues d'un bateau. Comme une envie de crier, comme une envie de vélo. Mais bon, c'est samedi soir, faut bien que les gens s'entassent. Que derrière toutes les vitres, le jeune danse sur une basse. Que l'insouciance s'aiguise sur le tranchant d'un cran d'arrêt. C'est pas maintenant la mort, non, c'est l'étape d'après. Mais moi, je veux qu'on me vende la symphonie du vent, un antidote pour le tourment. Mais moi, je veux qu'on me vende la symphonie du vent, un antidote pour le tourment. Dans cette petite rue derrière la pierre, y'a une gamine qui perd, quitter la terre, perchée dans un brancard à 12 mètres de sa mère. Le monde est toujours là, mais qu'est-ce tu veux y faire? On les voit plus danser, c'est nous qui tient le couteau. Et sur les petits balcons, on dirait des figurines de plomb. Ici y'a plus de couteau qui dévale dans son cou, comme les roues d'un fardeau qui s'en vont loin de tout. Putain, c'est samedi soir au feu des gyrophares. Le reflet des grandes vitres, le rouge qui vire au noir. Quand l'insouciance se heurte sur le tranchant d'un cran d'arrêt. Ouais, c'est maintenant la mort, c'est pas l'étape d'après. Mais moi, je veux qu'on me vende la symphonie du vent, un antidote pour le tourment. Elle danse, fenêtre ouverte. Elle voit, fenêtre du fond. Elle crie, jusqu'en hiver. Elle sourit, jusqu'au plafond. Mais moi, je veux qu'on me vende la symphonie du vent, un antidote pour le tourment.
Ils dansent par O2N et le Lonely Band sur Canal B. C'est nouveau et c'est à retrouver sur un album Unplugged, entendez débranché, plutôt en acoustique, qui est attendu pour le 2 novembre. O2N, groupe originaire de Bordeaux, entre chansons françaises, électro et hip-hop selon les albums. Et des albums, il y en a 5 sortis depuis 2008, plus des EP et des albums live. L'arène, l'émission d'info locale de Canal B, bien se poursuit avec tout de suite la chronique bimensuelle de la CIMADE. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, tu es intervenante juridique au centre de rétention administrative de Rennes pour la CIMADE, cette association de soutien aux personnes exilées. Toutes les 2 semaines à peu près, vous venez nous donner à entendre ce qui se passe entre les murs de ce centre de rétention. Aujourd'hui, sous forme de chronique, c'est la première d'une série en lien avec une réforme annoncée depuis un petit moment. En effet, le 6 novembre prochain sera présenté devant le Sénat le projet de loi visant à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration, amenant à son apogée l'instrumentalisation des questions migratoires. La CIMADE propose donc de décrypter dans les chroniques à venir les différentes mesures prévues par cette réforme.
Ce nouveau projet de loi est prévu effectivement en discussion au Sénat au 6 novembre 2023. Plusieurs aspects de ce projet de loi vont clairement réduire les droits des personnes en situation de migration. Il y a pourtant un volet de ce texte qui prévoit la régularisation des personnes exerçant un métier dit « en tension », soit un métier dont les offres d'emploi ne sont que difficilement fournies par une main-d'œuvre française ou européenne, et cela de manière constante. À première vue, cela semble raisonnable, voire même bénéficiable aux personnes étrangères et à l'économie du pays. Mais quand on regarde d'un peu plus près cette disposition de la loi, cela ne semble plus aussi clair. Sur le papier donc, le projet de loi prévoit la création d'un titre de séjour « métier en tension ». Ces métiers en tension représentent les emplois où il existe depuis de nombreuses années des difficultés de recrutement. Il existe une liste des métiers en tension qui est prévue par l'arrêté du 1er avril 2021. Cette liste contient entre autres des métiers comme agent d'entretien des locaux ou les métiers liés au bâtiment ou encore à la restauration. Ce titre de séjour serait prévu de plein droit, c'est-à-dire que le préfet devrait automatiquement délivrer le titre quand les conditions sont remplies. Pourtant, derrière ces bonnes paroles, existent des conditions d'obtention de ce titre de séjour. Ainsi, les personnes prétendant à ce titre doivent justifier de 3 ans d'ancienneté sur le territoire français, conditions sans pertinence vis-à-vis de leurs connaissances professionnelles. Par ailleurs, ils doivent justifier de 8 mois de travail sur les 24 derniers mois. On demande donc à des personnes n'ayant pas le droit de travailler légalement, puisque sans titre de séjour, de travailler 8 mois de manière déclarée pour avoir un titre de séjour lié au travail. Par là, on demande aux personnes de volontairement enfreindre la loi afin de se rendre en conformité avec celle-ci. Et puis, bien sûr, cela est limité à une liste de métiers en tension décidée de manière relativement opaque par le ministère de l'Intérieur. Et les restrictions ne s'arrêtent pas là, puisque ce titre de séjour n'est pas accessible aux personnes étudiantes, demandeurs d'emploi ou demandeurs d'asile. Par ailleurs, cette disposition de la proposition de loi questionne sur l'instrumentalisation qui est faite des personnes étrangères et l'utilisation d'une immigration jetable par l'État français. Censée combler les emplois en pénurie de main-d'œuvre, ces personnes peuvent obtenir un titre de séjour lorsqu'on en a besoin d'elles. Mais lorsque le besoin disparaît, s'en va également le titre de séjour. Ces personnes sont en situation de dépendance économique et administrative à leur travail, soumises à un titre de séjour très précaire. Ils sont corvéables à merci et jetables au besoin. Sous couvert d'un semblant d'humanité, ce projet de loi réduit donc les possibilités de régularisation des personnes étrangères et les exploite pour les besoins de la nation. La CIMADE dénonce ce projet de loi et appelle à sa non-ratification.
Je précise que le projet de loi immigration, intégration et asile qui s'apprête à passer devant le Sénat a détaché des dernières annonces du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui souhaite accélérer l'expulsion de près de 200 étrangers radicalisés en situation irrégulière. À après cette chronique en compagnie de la CIMAD. Les recommandations du jour quand même, avant de vous laisser, deux rencontres autour d'un thé. D'abord jeudi 19 octobre à 18h avec le web magazine Braise Femmes qui propose une rencontre dans le cadre de son cycle Femmes en chemin. Et cette fois face au public, Marois Rochet, l'autrice du témoignage Un marathon vers la liberté. Pourquoi court-elle autant? C'est la question qui sera posée à cette femme irakienne qui, lit-on dans la présentation, s'est longtemps cachée derrière l'image d'une femme forte enchaînant les projets et les courses à pied sans parvenir à combler ce trou noir qui la consumait. Pour la rencontrer, Marois Rochet, rendez-vous comme toujours au salon de thé culturel autour d'un thé à la menthe. L'adresse 4 Place du Souvenir, à Rennes bien sûr. Le même jour, à la même heure, un thé citoyen est également organisé au centre culturel Avicenne dans le quartier Villejean. Accueillir dignement les migrants, une obligation, un choix, ce seront les questions posées et le sujet d'une discussion en compagnie de la MIR, la Maison Internationale de Rennes, des patrons et patronnes solidaires et du MRAP 35. Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Un événement gratuit qui sera l'occasion de reparler de l'initiative citoyenne européenne lancée à Rennes il y a maintenant quelques mois. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Rennes, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.